Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série. Et aujourd'hui, on va parler de l'avant-dernier épisode de la série, de la première saison de la série Andor. Et je suis accompagné pour ce petit débriefing de Fred. Salut Fred.
Salut Loïc, bah, salut à tous, ravi d'être là.
Voilà, on est en duo ce soir, réunis pour parler de cet épisode pendant, j'espère, moins d'une heure. parce que j'ai encore jamais débloqué le petit bonus. Voilà, donc grosse pression pour moi ce soir, grosse pression. On va tout de suite faire vite nos petits usages. Donc on vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en allant du côté de la boutique de Star Wars en direct, où vous pourrez trouver des designs exclusifs qui ont été créés par notre leader suprême. Donc on attend bien sûr maintenant, Dany, la nouvelle fournée qui devrait bientôt pas arriver. Et donc vous pouvez aller à l'adresse starwars.direct/boutique pour retrouver tous ces magnifiques choses. Et Fred va nous parler des dernières émissions de Star Wars en direct, les plus récentes.
Oui, bah, la dernière émission, c'était il y a une semaine sur la review de l'épisode 10. Bon, ceux qui l'ont loupé, ben, écoutez là, c'était super intéressant. Le Star Wars en direct collector avec Sébastien, Dominique et Nico de Star Wars Artifact. Ça, c'était aussi il y a quelques jours. Et puis l'autre événement du mois de novembre, c'était bien évidemment Tales of the Jedi. Et donc, il y a eu un épisode avec Loïc, Tom, Jean et Karel il y a 15 jours à peu près. Et à écouter aussi après avoir regardé ces petits bonbons de Tales of the Jedi qui a pas mal plu, je crois.
Tout à fait. Très bonne critique toi, Loïc, dessus ouais, pour l'équipe. Eh bien, merci Fred. Donc, on va vous rappeler quand même, si vous êtes là, donc bonjour déjà à ceux qui nous suivent en direct. Bonjour à ceux qui vont nous regarder ou nous écouter en rediffusion. Donc, vous le savez, évidemment, je vais vous mettre la petite animation. Voilà, nous sommes évidemment full spoiler à partir de maintenant. Nous allons passer en hyperespace et ensuite on va débriefer de l'épisode. Donc on considère que vous avez évidemment vu l'épisode ou que le spoiler ne vous dérange pas. Et bien sûr, revenir sur tout ce qui a été dit dans les semaines précédentes, tout ce que nous avons déjà vu. Alors Fred, avant de commencer, j'ai envie de te demander évidemment ton avis général en quelques mots. Et j'aimerais que tu nous donnes également ton ressenti, on va dire, sur la série dans sa globalité, puisque nous ne serons pas là, ce sont les amis québécois qui vont avoir la chance de débriefer le final. Donc on va vous donner voilà, en quelques mots nos ressentis globaux sur la série. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce qu'on est satisfait, est-ce qu'on est pressé de l'année prochaine. Voilà, Fred, c'est à toi.
Ouais, alors sur l'épisode déjà, pour moi c'est encore un épisode magistral, c'est une histoire qui évolue vraiment parfaitement depuis le début, avec des arcs qui sont très clairs, toujours des éléments de surprise, c'est un peu la marque de fabrique aussi de la série. On est clairement dans le tragique, là notamment dans cet épisode-là, c'est clairement le cas, avec le thème du sacrifice qui est là depuis le début et qui est également central dans l'épisode. Certains regrettaient un petit peu un manque d'aliens, de non-humains. Dans cet épisode-là, on est servi, donc ça c'est plutôt cool. On a en plus un combat spatial avec une scène en termes de FX, on en reparlera, qui tient carrément la route. Hein, j'aurais bien vu au cinéma. Et donc avec ces apports, finalement, il reste plus beaucoup de défauts. Parce que là, finalement, ce qui pouvait être critiqué, on l'a pas mal dans cet épisode-là. On a les acteurs qui sont toujours au top, on a un droïde qu'on a envie d'adopter. Pour répondre à ta question, moi, je trouve que cette série s'est vraiment bonifiée d'épisode en épisode. Je trouve ça assez impressionnant. Tout s'est parfaitement mis en place là sur la fin, avec sur une conclusion qui s'annonce assez épique sur Férix. Je donnerai ma note en fin d'émission sur l'épisode, elle sera très haute. Et globalement, sur mon ressenti sur cette série, c'est clairement moi ce que j'ai vu quasiment de mieux depuis pas mal de temps. Donc je m'y attends. Alors j'avais de fortes espérances, mais je m'attendais vraiment pas à avoir autant de qualité, notamment dans l'écriture, notamment dans les sous-textes, dans les visuels, dans la qualité clairement d'écriture des personnages. C'est un avis extrêmement positif et clairement on comptera les mois avant la suite. Voilà pour moi.
Ben, on a Chocorantin qui nous dit « Meilleur produit Star Wars depuis longtemps » et je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, mon ressenti global de l'épisode, c'est qu'on est dans ce duo d'épisodes avec celui de la semaine dernière qui est un petit peu peut-être moins intense malgré l'évasion de la semaine dernière. Moins intense en tout cas dans la tension à l'écran, mais par contre très très intense dans la tension du sous-texte, justement, t'en parlais Frédéric, le sous-texte et les choix que vont devoir faire les personnages qui étaient posés déjà la semaine dernière et qui explosent dans cet épisode, et c'est tellement bien écrit. Je pense qu'on risque d'avoir des ressentis extrêmement forts et puissants la semaine prochaine quand certains personnages vont faire des choix qui risquent de nous glacer. Et vraiment, c'est extrêmement bien écrit. Tu l'as dit, c'était très cinématographique. On vous diffusera, pour ceux qui ont la vidéo, quelques images tout à l'heure, et vous les avez peut-être vues, et vraiment... Ça aurait les honneurs du cinéma sans démériter à côté des films, ce que pour moi n'avaient pas les autres séries Star Wars, ou pas en tout cas dans l'ampleur et dans l'ambition, même si elles peuvent être très très qualitatives parfois également, notamment Mandalorian. Donc voilà, ça c'est pour l'avis global sur l'épisode, et l'avis global sur la série, ben, il va rejoindre, c'est une série... J'en attendais beaucoup aussi parce que c'est une époque que j'aime, cette guerre civile, que j'avais envie d'en voir plus. Je ne suis pas déçu, on en a vu plus. On en a même, peut-être même pas vu encore assez. On explore l'univers Star Wars, on est en profondeur. Moi, j'ai envie que chacune des séries soit écrite comme ça. Alors peut-être de temps en temps, une série un peu plus superficielle pour se détendre un petit peu. Parce que c'est vrai que les sujets abordés sont quand même très très forts et assez matures, mais je me dis pourquoi pas appliquer à l'ensemble de l'univers Star Wars un peu cette écriture, peut-être pas en la dupliquant à 100%, mais je pense qu'il y a vraiment à tirer là-dedans quelque chose, des enseignements pour la suite de Star Wars, et pour moi la série c'est un grand oui. J'ai, comme toi, je vais compter les mois jusqu'au retour de la saison 2, guetter les bandes-annonces et les photos de tournage, parce que maintenant qu'on sait à quoi on peut s'attendre, on a forcément envie d'en avoir plus, et c'est là où ça peut être dangereux, parce que peut-être qu'on aura de très grosses attentes et il faudra qu'elles soient effectivement pas du tout déçues. Elser qui nous dit qu'effectivement la série, c'est le scénario aux petits oignons et qui dépasse de loin tous les autres, oui, clairement au niveau scénario et écriture de personnages, il n'y a vraiment pas photo.
Et ce qu'apporte cet épisode est particulièrement et puis l'ensemble de la série, c'est vraiment l'émotion. C'est vraiment une série avec beaucoup, beaucoup d'émotions, et sans avoir à utiliser des personnages cultissimes, des Jedi et tout ça, c'est parce que voilà, on a eu des émotions dans les séries précédentes, notamment parce que voilà, on découvrait des personnages qu'on adorait.
Bien sûr.
Et c'est par cela.
Retrouver Luke Skywalker ou Obi-Wan Kenobi.
Voilà, donc là, on avait l'émotion par ça, donc c'était limite pas un peu facile, mais ça marchait. Et puis il y a pas de problème, moi là-dessus, moi j'ai marché sans aucun problème. Mais là, on nous apporte de l'émotion, bien avec c'est un petit peu, ça peut être peut-être un peu excluant pour certains, parce que c'est pas, comme on le sait, une série qui explose les audiences, mais en tout cas elle nous apporte de l'émotion par l'écriture, par les personnages, et c'est ça qui est vraiment qui fait le succès de cette série.
Bah, c'est quelque chose qu'on retrouve sur plein d'autres séries, dans d'autres univers, même pas sur des franchises, hein, dans des séries qui sont très très bien écrites et qui sont très qualitatives. Pour une fois, on va pouvoir crâner et dire nous aussi dans Star Wars, on a ce niveau d'écriture, donc c'est vraiment pas rien. J'espère qu'on sera vraiment un tournant de ce qu'on peut attendre des productions, même si ça va pas être instantané, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà en production, donc on verra peut-être pas tout de suite, mais bon, allez, on croise les doigts. Eh ben, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, comme d'habitude, on va procéder plutôt par arc, hein. On n'aurait pas de résumé en tant que tel. On considère que vous avez déjà vu l'épisode si vous êtes avec nous ce soir, ou en tout cas que ça ne vous dérange pas d'avoir les infos. Donc, on ne va pas revenir sur quelque chose que vous avez potentiellement déjà vu. Alors, pour commencer, on peut s'intéresser peut-être à l'arc sur Férix, Marva et puis B. Oui. Notre petit droïde.
Le droïde B. C'est vrai qu'on c'est très très vite après l'intro sur la comment le oui. l'espèce de rocher là on retrouve
sur Narkila.
Voilà, on retrouve notre droïde B avec une introduction assez rigolote où on part de son point de vue. C'est assez original avec un gros plan sur son œil que je crois que tu vas montrer.
J'ai montré.
Ouais, voilà. Et je sais pas si ça voulait faire un petit clin d'œil, oui, à son intelligence. Ça fait un peu 2001, avec le point de vue de l'œil sur Hal. Et ça permet en tout cas.
Mais il y a quelque chose de très humain dans cet œil
voilà,
aussi.
Hein. Ça permet de l'humaniser. Ça, c'est clair. Ça voilà, permet de l'humaniser et de le personnifier. Et dans cet épisode, et clairement, là, il dégage une émotion, justement, assez folle avec ses mouvements, avec sa voix, avec les petits bruits robotiques. On dirait un gros chat tout triste, là. Et qui fait beaucoup de peine et c'est un point fort de cet épisode. Et je me demandais d'ailleurs pourquoi.
Disney sont très forts depuis le rachat pour les personnages de droïdes.
Ah, c'est incroyable, c'est hallucinant, ça fonctionne tout le temps. Ouais, ça fonctionne tout le temps. Et je me demandais pourquoi B2Emo.
Ouais, tout le temps.
Je me demandais pourquoi B2Emo, parce qu'on connaissait le nom avant le début de la série, je me suis dit, mais pourquoi ce nom ? Est-ce qu'on va avoir un droïde un petit peu dépressif qui écoute du punk, du punk un peu mélancolique ? Et au départ, je ne comprenais pas. Et là, on comprend maintenant. On comprend pourquoi il s'appelle B2Emo.
il a les émotions, hein. Vraiment, c'est prenant, c'est assez prenant. D'ailleurs, on voit aussi un plan très intéressant que je n'ai pas en capture d'écran parce que ça ne rendait pas bien du tout. En fait, on voit ce qu'il voit. Et ça aussi, c'est la première fois dans Star Wars qu'on voit, qu'on a le point de vue vraiment du droïde.
Tout à fait.
On est complètement un peu désarçonné parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. On a l'impression qu'il se passe des choses autour. Donc, on ressent complètement son désarroi, en fait. Et c'est tellement bien trouvé, vraiment, vraiment bien trouvé. Donc, B qui va en fait devoir se trouver une nouvelle famille puisqu'il ne veut pas quitter Marva, il ne veut pas accepter en fait sa mort.
C'est vraiment trop triste.
Voilà. Est-ce que effectivement elle est décédée ? Ça on ne sait pas. Mais voilà, c'est extrêmement triste et ils essayent donc pendant cet épisode de lui dire voilà, va peut-être falloir que tu changes de maison, que tu viennes avec moi. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est comme un animal. Pour être comme sur Terre, un animal qui a perdu son maître et qui ne veut pas le quitter. Il y a plein de vidéos comme ça sur Internet où on voit, et c'est vraiment très prenant. Et Marva, quant à elle, donc, qui va être emmenée par les fameuses... c'est les sœurs de Férix, les filles de Férix en VO, et je ne sais plus comment ils les appellent en VF, c'est la congrégation de je ne sais plus quoi...
J'ai oublié.
Enfin, c'est
un nom alambiqué, là. Ouais.
C'est ça, c'est alambiqué. C'est beaucoup plus simple en VO. Et en tout cas, donc, ces femmes vont emmener son corps. Et puis, on va nous expliquer, en fait, que sur Férix, il y a un processus funéraire. Alors, si j'ai bien compris, ça consiste à la réduire en cendres et à mélanger ses cendres à du mortier pour sceller des briques dans un mur. Et je trouve ça... Enfin, il y a un côté... très poétique et à la fois extrêmement glaçant, je trouve, dans ce truc-là.
Ouais. c'est très touchant et surtout, je trouve ça, ça montre aussi à quel point la cité ouvrière là, elle est solidaire, elle est liée, quoi. Enfin, on va dire littéralement.
Oui.
En fait, liée jusqu'à la mort. Enfin, à quel point elle fait finalement cette cité communauté, quoi. Donc, le fait de représenter une brique, d'être dans un mur, ça présente vraiment ce qu'on avait ressenti depuis le début de la série, cette forme de solidarité classique. On faisait des comparaisons avec ce qu'on connaît chez nous. Et je trouve ça effectivement très très touchant comme image.
Exactement. On a Aude qui nous dit dans le chat le droïde triste qui veut sa maman, c'est exactement ça. Et voilà. En tout cas, alors c'est pas l'arc le plus développé de l'épisode quand même. Il se passe quand même assez peu de choses de ce côté-là, mais ça apporte beaucoup en émotion et ça prépare aussi pour lancer la suite la semaine prochaine. Bien sûr. Parce que évidemment, on peut peut-être enchaîner sur l'arc de Cassian, puisque Cassian va apprendre la mort de Marva. Pas tout de suite, puisque d'abord il va s'échapper, donc avec Melchi, ils vont tenter de s'échapper de Narkila 5 en repérant un espèce de groupe de pêcheurs en fait qui va les et leur vaisseau. Alors vaisseau très intéressant puisqu'il s'agit d'un quad jumper qui est la réplique de celui qu'on retrouvait sur Jakku dans l'épisode 7 et qui explosera détruit par le premier ordre. Donc en fait ces pêcheurs vont donc d'abord ils veulent en fait prendre le vaisseau, mais les pêcheurs vont les capturer dans des espèces de filets toiles d'araignée gluants un peu dégueulasses.
Ouais, c'est un peu crado.
Ils sont vraiment ça donne vraiment pas envie d'y être. Alors on découvre d'ailleurs une nouvelle race d'aliens qu'on connaît pas du tout qui habite sur Narkila, qui sont à la fois écœurants et extrêmement bien fait, saisissant de réalisme. Enfin, donc on voit bien que c'est du costume, mais ça fonctionne à la perfection.
Ouais, c'est chouette de les avoir là.
Franchement, c'est chouette.
J'ai lu que ce sont des Kerridians. Voilà.
Ouais.
Je ne connaissais pas.
Mais je crois que c'est à ma connaissance, la première fois qu'on les voit, hormis si c'est une race qui est apparue dans Légende ou dans un jeu vidéo. Mais en tout cas, moi, ça ne me parlait pas du tout.
Ouais, ça me parlait pas, et c'est deux personnages qui sont Dewey et Freedy, et qui ont une petite critique envers l'Empire sur la pollution et sur le fait qu'ils ont plus de poissons, etc.
Exactement.
Donc, je trouvais ça assez intéressant d'aborder ce thème-là rapidement.
Oui, une fois de plus, les planètes sur lesquelles l'Empire s'installe, malheureusement, elles prennent quand même très très cher. Et celle-ci ne fait pas exception.
Ouais,
carrément. Et donc, en fait, ces aliens, on pense qu'ils vont... parce qu'il y a une prime donc, qui est pour ramener les prisonniers qui s'échappent, morts ou vivants, d'ailleurs. Donc, on pense, oulala, mon Dieu, ils vont se faire tuer. Et en fait, étant donné qu'ils ont tous les deux une haine de l'Empire également, ils vont aider nos camarades qui vont pouvoir monter à bord du Quad Jumper, direction Nyamos. Nyamos et ses magnifiques pélicans bleus. C'est très bleu cette série parce que les céréales bleues, le lait bleu, les pélicans bleus, enfin il y a beaucoup de touches de bleu. Et sur Nyamos, donc il va aller récupérer son cache parce qu'il en a besoin forcément. Autre couple d'aliens qui dort dans la chambre d'hôtel, donc toujours ce côté des aliens. Et c'est là donc qu'il va contacter Férix et apprendre le décès de Marva, ce qui va probablement le pousser à venir sur Férix pour les funérailles, ce que évidemment le BSI attend avec grande impatience, puisque leur but c'est de le choper en fait au vol.
Ouais.
Donc voilà pour l'arc de Cassian.
Ouais, c'est ça. On s'attendait pas effectivement au fait qu'ils arrivent assez facilement à récupérer le quad jumper là.
Oui.
Et qu'on a pu voir dans The Force Awakens, c'est ça, avant de récupérer le faucon.
Le faucon.
Et sur la plage que tu as montré, je trouvais assez intéressant de voir qu'il n'y a personne et que c'est vide.
Oui, tout à fait.
Totalement vide. Et je pense que c'est pas pour rien.
Après, il fait pas très beau.
Ouais, il fait pas très beau, mais je pense que justement, le sous-texte, c'est que c'est une station balnéaire normalement galactique où il y a la fête, où c'est la... Voilà. Et là, peut-être que l'Empire a mis son veto sur pas mal de loisirs, pourquoi pas. Et je trouve ça pas innocent de montrer une plage qu'on avait vue la dernière fois. Avec la musique qu'on aime bien, assez
remplie.
Et là, il y a personne. Mmh. C'est triste. Et je trouve comme si on avait un peu passé une étape dans la chronologie de la montée de l'Empire. Enfin, c'est comme ça un peu. Je l'ai ressenti. Ou alors, il fait pas beau.
Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Non, on voit le couple dormir en fait, donc je me dis que c'est le matin tôt.
Ah ouais, voilà.
Et que les plages sont pas encore prises d'assaut. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, mais en tout cas, je trouve ton analyse elle est intéressante. Est-ce que l'Empire pousserait le vice à vraiment...
C'est triste, quoi, il n'y a personne.
C'est possible, c'est possible. En tout cas, ce serait intéressant. Donc ça nous fait enchaîner sur le BSI, parce que le BSI ne se passe pas grand-chose. On a juste une communication entre Dedra et les officiers de rester sur Ferrix, puisqu'en fait, l'interrogatoire de Bix va continuer. On va lui demander si elle connaît, tu vas m'aider avec son nom.
Kirgir.
Anton Kirgir. Anton, voilà. Donc le fameux chef rebelle auquel il destine un piège avec le pilote X-Wing mort dont on parlait la semaine dernière. Donc on découvre ce personnage pour la première fois en hologramme. Et ouais. Bix doit nous dire si ça correspond en fait à l'axe. Est-ce que c'est ce personnage qui est l'axe ou est-ce que non ? Et est-ce qu'elle va, en fait, en sous-texte, est-ce qu'elle va donner Luthen ou pas ? Parce que finalement, elle le connaît. Je me dis, on n'a pas la réponse dans l'épisode. Et ça rajoute une petite couche de tension. J'étais très frustré de ne pas savoir. Pour moi, elle va craquer.
Allez, en tout cas, on nous montre qu'elle est en train de craquer, en tout cas. Ça, c'est clair.
En plus, on nous repasse le discours du docteur où il dit oui, alors ce sont des cris d'enfants, etc.
Ouais, on va le rappeler, donc, hein, si tu.
Voilà, donc, ça. Souviens-toi, si tu ne veux pas le casque à nouveau.
Là, c'est pareil, hein, c'est une scène où je pense qu'on n'a pas besoin de nous. Voilà, je pense que clairement, elle est en train de craquer. Et c'est ce qui va aussi amener à avoir. Un dernier épisode assez dingue puisque tout le monde se retrouvera au même endroit. Et c'est effectivement on en entend parler depuis un moment de Krigir, là, c'est le séparatiste qui est très badass, hein, sur cet hologramme.
Il en impose, quoi.
Ouais, voilà, et je trouve ça assez génial finalement de nous laisser imaginer un petit peu de qui est cette personne depuis le début. On sait pas grand chose à part que c'est un séparatiste, mais je trouve ça intéressant de nous laisser un petit peu imaginer et de pas nous exposer directement qui il est. Et ça, je trouve ça assez sympa comme écriture aussi.
Sur Ferrix. En fait, c'est le seul moment.
C'est l'arc Bix Empire. Après, il y a un petit peu là, il y a des draps que l'on voit un tout petit peu dans cet épisode.
Ouais. Une scène.
Voilà, une scène où, au départ, le plan, c'est plutôt de ne pas faire de funérailles. Et puis elle dit ce serait quand même bien d'en faire en petit comité, mais surtout faire ses funérailles, puisque ça pourrait faire. Éventuellement faire venir Cassian.
Voilà.
Donc exactement. C'est l'ordre qu'elle donne.
Mais dis-moi, Fred. Dis donc, Fred. Il y a pas quelqu'un aussi qui aimerait bien attraper Cassian ? Dis donc que ça peut être.
Peut-être. Juste un dernier petit mot avant.
Je l'ai oublié.
Juste parler de Cinta qui a trouvé un job dans un café.
Serveuse au café.
Voilà, c'est juste un petit mot sur elle. Bon, c'est vraiment des scènes très courtes, hein, on les voit vraiment très très peu, mais on se rend compte qu'elle effectivement elle continue dans son petit parcours d'espionne, et là je pense qu'elle aura une belle vue pour admirer l'ensemble des événements qui vont se passer, et c'est juste un petit mot par rapport à ça, et on la retrouvera.
Et essayer de récupérer Cassian d'ailleurs, elle aussi.
Voilà. Bah, tout le monde veut Cassian. Hein. Là, c'est.
Cet homme est vraiment.
Ouais.
Donc, ça nous amène sur Coruscant maintenant, avec Cyril. Qu'est-ce que tu as pensé de. Qu'est-ce qui se passe avec ce Cyril ?
Cyril, pareil, une courte scène ces derniers temps. C'est un peu comme ça qu'on nous le présente. Là encore, il reçoit un petit coup de fil pour lui annoncer que l'événement du décès de la mère de Cassian. Alors la communication est compliquée, hein, ça le rend un petit peu fou.
Oui. Il a toujours. Il est pas bien. Hein, il est pas. Ce mec a un gars. Disons-le.
Ouais, il est. Là, dans cet épisode, il est de plus en plus flippant quand même. Hein.
Il
joue, mais alors l'acteur est excellent, mais il fait vraiment psychopathe là. Là, on y est.
Je ne sais pas si tu as pensé aussi la même chose que moi au moment où il est en fait dans les. Il se cache, sa mère s'en va. Donc il suit en fait. Il suit du regard sa mère, mais on a l'impression qu'on est dans Psychose et qu'il va la tuer, quoi. Je trouvais ça vraiment impressionnant, quoi. Il joue très bien.
Non, c'est assez impressionnant. Et lui aussi, hein, je pense qu'il va prendre un vol direct sur Ferrix, hein, et on devrait le retrouver.
Direct. D'ailleurs, il pique des crédits à sa mère.
Oui, ouais, pour aller prendre un vol sympa. Pour y aller.
Je pense qu'il est déterminé là.
Ah là, ouais, il a une tête déterminée de psychopathe. Je ne sais pas du tout comment on va le retrouver dans tout ça, hein. Ça. C'est encore très, très flou. Mais en tout cas, clairement, on devrait le retrouver. Voilà pour Cyril.
Bah, je me demande si ce n'est pas ce qui va sceller un peu la possibilité de le voir rallier le BSI. Peut-être qu'à la fin, Dedra lui fera une proposition de travail pour service rendu à l'Empire ou... Oui, bah, Boba et Fred, ils disent la même chose. Je pensais qu'il allait tuer sa mère, moi aussi. Mais pas du clairement. Tout. Pas du tout. On est encore plus psychopathe que lui. Donc voilà, en fait, c'est ce qui se passe pour Cyril. C'est juste pour nous poser la pierre que, bah, on va le retrouver dans le dernier épisode également sur Férix. Décidément, ce nouveau centre de la galaxie.
Ça, c'est clair.
Et puis donc on est toujours sur Coruscant, donc on va retourner encore une fois chez Mon Mothma qu'on a laissé un peu en plan avec ses dilemmes moraux à l'épisode dernier, qui surveille sa fille du regard, qui fait partie des jeunesses chandriliennes, donc visiblement ce sont des traditions, donc alors on ne sait pas de quoi ça s'agit vraiment, est-ce que c'est en rapport avec l'Empire, est-ce que pas du tout, en tout cas ça fait très embrigadement.
Ouais.
Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. C'est présenté un peu comme ça.
Un peu secte. Hein.
Elles ont, un peu secte, toute la même coiffure, donc la même robe. Presque, c'est une loge maçonnique presque. Donc voilà. Et puis Vel va la rencontrer. Et là, vraiment, elle a ce dilemme qui est résolu. Hein. On l'apprend et on le voit d'ailleurs à sa tête. Ouais. Ce dilemme, elle a décidé, donc elle nous explique en fait tout ce qu'on a vu dans les épisodes d'avant, mais un peu plus en détail, où sont passés les fonds. Alors on ne sait pas trop où ils sont passés, mais on sait qu'ils ont disparu et qu'il y a un contrôle et qu'elle va être chopée et qu'il faut absolument qu'elle renfloue le business pour que l'Empire ne découvre pas ses activités. On apprend une chose très importante, c'est qu'elle n'est pas avec Luthen par... par choix politique en réalité, c'est qu'elle a fait appel à lui pour avoir de l'argent et en fait elle lui est redevable tout simplement. C'est intéressant parce qu'on a toujours vu Mon Mothma comme étant un leader de la rébellion qui n'a jamais démérité, qui a toujours été là et qui s'est toujours battu pour la cause et en fait peut-être pas tant que ça. Peut-être qu'elle a continué à faire un peu la planquée en étant un peu frileuse, parce qu'on l'avait vu frileuse en début de série, et que là, maintenant, elle n'a plus le choix et qu'elle est vraiment bloquée et ça va lui faire des choix absolument déchirants qu'on va voir dans le dernier épisode, mais peut-être que c'est la seule personne qui ne se retrouvera pas sur Férix. je pense qu'elle restera sur Coruscant.
Ouais, c'est très fin, hein, tout cet arc-là. Ça aurait pu être tellement mal fait, et là vraiment on nous construit le personnage très très bien, et tout cet arc autour de Mon Mothma, c'est vrai que au niveau de sa fille là, c'est assez bizarre, on sait pas trop ce qu'est voilà. Aude nous dit les gamines elles me font plus flipper que Cyril, effectivement
c'est pas faux, et on rajoute ça de la part d'Elser, Cyril Dahmer, on n'est pas loin effectivement,
voilà, il y a un petit combat de flip entre les deux là sur cet épisode, ouais. Et je retiendrai quand même dans ce moment-là, le jeu de Geneviève O'Reilly, là, qui est vraiment magnifique, qui est tout en subtilité, là, toute la conversation qu'elle a, on est vraiment sur l'émotion, on la sent totalement dépassée, vulnérable, alors qu'elle, voilà, elle doit toujours, c'est quelqu'un qui doit toujours être dans la représentation, dans la retenue, elle l'est encore là, hein, mais là, il se passe des choses dans ses yeux, on sent que... Voilà,
elle change de visage au fil de la conversation.
Les
vraiment,
yeux elle rougissent.
Elle fond, quoi, voilà.
Ouais, et ça, c'est impressionnant. Terrible. C'est terrible.
Du maquillage ou pas, mais en tout cas, c'est super bien fait.
Ouais, et puis je pense qu'elle est vraiment à fond dans son personnage, et effectivement, l'émotion qu'elle transmet, les yeux qui rougissent, et finalement, comme tu dis, à la fin, on comprend que le deal, en fait, avec Davo, il a été accepté, et on était un petit peu encore dans l'expectative avant, et là, on comprend qu'en fait, elle a probablement franchi le pas, et on la trouve effondrée dans cet épisode, et c'est un moment fort, moi, je trouve, de cet épisode, tout son jeu,
et
là.
Et on rejoint le... On rejoint, je trouve, ce que disait Luthen en fin d'épisode dernier, où j'ai tout donné pour la rébellion, enfin pour cette cause, et c'est ce qu'elle va faire en fait. Elle va donner ce qu'elle a de plus cher, Leïda, sa fille, et on est vraiment là-dedans, et elle n'aura plus après, elle ne pourra plus revenir en arrière. Et elle sera obligée de se plonger en vrai à fond dans la cause, puisque une fois qu'on a franchi cette espèce de point de non-retour, impossible de faire machine arrière. Quoi.
Ouais.
Vraiment, Geneviève Aurélie, vraiment bravo. C'est...
Ouais,
alors, on l'avait déjà vu, hein, on savait qu'elle incarnait magnifiquement le personnage, mais alors là c'est vraiment magnifique. Ouais. Et donc, la dernière personne qu'on voit sur Coruscant, c'est Vel qui va aller rencontrer Celia à la boutique. Prise de risque. Celia lui fait bien remarquer d'ailleurs en lui disant où est Luthen, pourquoi il est parti, blablabla, blablabla. Donc, où va donc se rendre Vel pour le dernier épisode? Sur Férix.
Sur Férix, bien sûr. Ouais.
Sur Férix pour retrouver probablement Luthen et Cynta.
Oui, après, c'est tout. Ce qui reste à savoir un petit peu, c'est ce qu'ils vont faire de Cassian, en fait. Parce que notamment Luthen. Est-ce qu'il, parce que lui aussi va s'y rendre, est-ce qu'il y va pour vraiment, est-ce que c'est vraiment lui qui va vraiment le mettre en danger ou qui va carrément l'aider? Il reste en fait une sorte de, on est tellement dans le double jeu que reste cette surprise.
Mon avis, ça reste que en réalité, il va apprendre dans son vaisseau que Cassian, alors d'une façon ou d'une autre, laquelle je ne sais pas, mais peut-être par l'espion du BSI, va apprendre que Cassian vient d'arriver sur Férix et va s'y rendre tout de suite.
Ah bah c'est sûr.
Voilà.
Et pourquoi faire? C'est ça qui est ma question.
Pour moi, il n'y a pas de raison qu'au final, ils ne le défendent pas. Mais peut-être qu'on va avoir une scène de dialogue entre les deux où il va dire, bah oui, effectivement. L'Empire, voilà, c'est des salopards, blablabla, blablabla, comme, puisqu'il a vécu quand même des choses depuis, et dire, ben non, je m'engage dans la cause.
Ouais, ou c'est alors, ça, c'est Cassian qui peut le convaincre.
Exactement. Et donc, tu nous as offert une très belle transition, Frédéric, si tu veux nous parler un peu de la dernière partie, en fait, puisque là, on est passé sur les parties les plus rapides, on va dire qu'on est sur la mise en place du final. Donc avec chaque personnage qui doit se rendre sur le lieu dit, et il y a un personnage qui pour l'instant n'y s'y rend pas du tout, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est donc Luthen. Mais qu'est-ce qui arrive à Luthen dans cet épisode?
Luthen, il a effectivement, moi j'ai été assez surpris de le savoir aussi doué en combat spécial,
ouais,
et là, parce que c'était en fait il a vraiment plein de ressources. Et effectivement il se fait choper par un, alors j'avais noté le nom parce qu'on le voit dans Solo, hein, ce vaisseau là, et je me rappelle,
on le voit dans Solo,
oui on le voit dans Solo, il a un nom un petit peu alambiqué, et effectivement il se fait choper. Moi j'ai l'impression de voir, c'est un peu comme si c'était le Luthen là, le s'il était un peu le sorte de James Bond dans l'univers Star Wars, quoi. C'était un peu le... Et on a l'impression qu'il a des boutons partout, qu'il a plein de petits gadgets ultra sympas, et finalement ça va bien avec cette envie, c'est un petit peu cette idée qu'on a de l'espionnage. Alors, je parle de James Bond.
Oui, bien sûr. Double identité.
Voilà, exactement, cette double identité, et puis son vaisseau. Et effectivement, là, on est sur des scènes, et tu vois, tu commences à les montrer, qui sont du grand art, hein, quand même. C'est court,
ouais, franchement, c'est magnifique.
Mais c'est pas très long, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, quoi. Super scène.
Très bien fait. On a un croiseur qui est inspiré d'un design de Ralph McQuarrie préliminaire de l'épisode 4. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit qu'il y avait de l'inspiration McQuarrie dans Star Wars, dans les nouveaux designs de l'ère Disney. Donc, c'est plutôt content de le revoir. Et puis, alors, je ne sais pas ce que tu as pensé, moi, de cet impérial, en fait, ce capitaine de vaisseau, que j'ai trouvé totalement 1977.
Carrément.
Enfin, j'ai vraiment trouvé que ça ressemblait totalement à un Nouvel Espoir, quoi.
Bah, tout est 1977, hein.
Oui, complètement.
Bah, l'écran de Luthen. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Les écrans, c'est ça. Et effectivement, oui, elle sert, en parle, on le retrouve dans Solo, et effectivement, c'est le cas. Et c'est un Cantwell Class Arrestor Cruiser, pour être précis, pour ceux vraiment qui sont à fond là-dedans. j'ai noté le vaisseau, et il y a tout un petit jeu sur la fin de laser là qui envoie du pâté quand même. C'est vraiment magnifique, et il reste un peu comme des cons. Hein,
surtout qu'il arrive quand même à se débarrasser du croiseur.
Ouais.
D'une manière très intelligente d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, c'est de l'inédit dans Star Wars. On n'a jamais vu ce genre de manœuvre. En général, le rayon tracteur, c'est problématique. Il a des espèces de mini bombes en fait qui vont totalement détruire l'antenne. C'est magnifique, c'est super beau. Et ensuite, donc la pauvre escadrille de 4 chasseurs TIE qui va se faire dégommer. Ce mec est très fort. Franchement, ce mec est très fort. Vraiment. On a une super scène. Il y a une tension quand même. Enfin, moi, j'ai ressenti cette tension. On a vu les bandes annonces. Donc, on sait qu'après, il y a des chasseurs, si on s'en souvient, et on sait qu'ils vont être détruits. Mais j'arrive quand même pas à m'empêcher d'avoir cette tension de l'échange entre le capitaine et Luthen. Enfin, c'est.
Ça marche à chaque fois. C'est des scènes qu'on connaît, hein, bien évidemment, c'est ce type d'échange. Mais là, ça marche particulièrement bien. Hein. Clairement.
On a Fred qui nous dit le double sabre laser sur un vaisseau. On a Ark qui nous dit fait penser un peu à Iron Man, tout à fait. Et Elsa qui nous dit MacGyver dans Star Wars. Oui, il y a une tension jusqu'à ce qu'il sorte son matos, c'est vrai. Après, une fois qu'il a commencé, une fois qu'il a lancé les contre-mesures, on a compris que c'est bon. D'ailleurs, lui, Luthen n'est pas extrêmement stressé. Hein. On sent bien qu'il sait comment faire grâce à son droïde, en plus, son aide de camp. Et donc, en plus, ce qui est génial, c'est que pour cet épisode, on n'est pas du tout chronologique parce qu'on vient de décrire la fuite de Luthen qui va probablement l'amener sur Félix dans le prochain épisode. Mais nous n'avons pas parlé de ce magnifique échange, Fred, entre Luthen et Saw.
Oui, c'est l'autre, l'autre gros moment de Luthen. Luthen, il a quand même à chaque épisode des sacrés moments. Hein. Il est bien servi. Hein.
C'est un personnage qui est bien servi.
Clairement, magnifique. Et donc, on retrouve Saw. Donc, ça, c'est cool. Deux grands acteurs. La dernière fois, on en avait parlé. Hein. C'est le fait qu'ils jouent ensemble et qu'ils se chamaillent. C'est quand même. Toujours impressionnant, Saw qui est toujours en mode paranoïa, hein, qui a des petits légers sauts de concentration. Donc Luthen a besoin d'employer des méthodes pédagogiques assez radicales hein, pour vraiment bien se faire comprendre. Hein, parce que sinon, s'il ne met pas le flingue sur la tempe, j'ai l'impression que Saw il se perd un peu trop. Donc là, au moins, il comprend ce qu'il veut dire. Et puis, là, c'est à nouveau le thème du sacrifice qui arrive à ce moment-là. En évoquant Anton Krieger, hein, et pourquoi pas effectivement sacrifier pour laisser croire l'adversaire à une grande victoire, etc. Enfin, tout ça est extrêmement pensé.
Pour ne pas ébruiter la taupe.
Voilà. Essayer toujours d'avoir des coups d'avance, quoi. C'est toujours ça.
C'est ça. Mais c'est pareil, ce dialogue, il est. Ce que tu parlais du choc un peu psychologique, pédagogique, pardon, pour que Saw se reprenne, c'est quand même un coup magistral où il lui dit, moi j'ai des espions partout et tu vois ce mec-là, il bosse pour moi. Alors que c'est pas vrai du tout, mais c'est génial.
C'est très très marrant en ce moment. Le mec, il est perdu en face, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a
Et comme Saw est totalement, pas schizophrène, mais il est vraiment sur la défensive partout. Ben, ça fonctionne d'enfer. Enfin,
ça fonctionne.
C'est génial. Et Luthen sait très bien où appuyer pour arriver à ce qu'il veut, en fait. Donc,
Il fait ce qu'il veut. Et puis, il n'a pas n'importe qui en face. Hein. Donc, qu'il a une maîtrise des événements qui est impressionnante. Et c'est vrai que dans cette série, on le sait, l'humour n'est pas très, très présent. Et donc, quand il y a une petite touche comme ça, subtile d'humour, prend, quoi.
Franchement.
Mais c'est sympa. C'est vrai que ce moment-là est rigolo. Ouais. C'est sympa.
Mais je me dis, j'espère que Luthen survit à la saison 1 parce que c'est un tel apport à la saga Star Wars que ce serait tellement dommage de le perdre. Même si après, on se doute bien qu'à un moment donné, il va mourir ou se faire arrêter probablement puisqu'on n'en entend plus parler après. Encore qu'il peut très bien disparaître dans un coin de la galaxie une fois qu'il a effectué le gros de sa mission. On ne sait pas vraiment, mais j'espère qu'on le reverra.
D'après, il bouffe un peu le show. Alors, Diego Luna et Cassian est excellent, hein, clairement.
Ils sont tous excellents.
Il est excellent, mais c'est vrai que Stellan, là, il bouffe vraiment l'écran. Quoi. Ouais.
On sent qu'il y avait besoin d'un personnage qui va inspirer les autres et qui va, en gros, les tirer pour les amener à leur destin, en réalité. Et c'est exactement ce qui va se passer. Parce que Luthen meure ou que Luthen reste, c'est probablement lui qui va vraiment lancer Mon sur la rébellion. Alors je me dis que s'il meurt, c'est encore plus vrai, parce qu'il y a une place à prendre, et pourquoi pas lui donner. Et en même temps, s'il reste vivant, quel meilleur mentor pour propulser les différents groupes et essayer de les fédérer, quoi.
Ouais. Bah, c'est ce que dit Ark, hein. Il va pas mourir de suite, il faut qu'il forme Cassian, enfin, j'espère. Ouais.
Bah, oui. Ah, j'espère aussi, j'espère aussi.
J'espère aussi, ouais.
Un peu comme quand on a vu dans Solo... quand on a vu dans Solo le personnage, ah merde, je sais comment ça s'appelait, enfin, le mentor en fait de Han Solo, mais qui était tellement surfait par rapport à par rapport à la profondeur que peut avoir un Luthen vis-à-vis d'un Cassian. Enfin, c'est ça n'a rien à voir. On a deux modèles totalement différents, quoi.
Ça c'est clair.
Donc voilà, voilà ce qui se passe en gros dans cet épisode. C'est vrai que je trouve que c'est pas non plus l'épisode le plus fourni. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais je sens quelqu'un l'avait dit sur le Discord aujourd'hui, mais comme s'il y avait une espèce de respiration qu'on prend, un peu d'air, l'air libre en fait de Nyamos après l'apnée de la prison, avant ce grand final. Ben j'ai un peu ce ressenti. Donc on n'a pas tant de choses à dire de plus que ça, si ce n'est que ça reste magistral. C'est peut-être moins intense que certains épisodes précédents, et c'est bien normal puisqu'on est en train vraiment de mettre en place le final. Donc finalement, on n'a pas un arc. Enfin, je trouve qu'on n'a pas un arc en deux. L'arc en deux, c'était l'épisode de la semaine dernière et celui-ci. Et en espérant que la semaine prochaine, nous amène vraiment quelque chose en fanfare. Alors, je pense pas qu'on ait trop non plus d'action ultra boom boom. Parce que si on se souvient bien, sur les bandes annonces, on a grosso modo une insurrection sur Férix, plus ou moins. Maintenant, j'espère quand même qu'on verra, qu'on aura un peu d'action. Et puis, on a quand même 40 minutes d'épisode, on en a vu peut-être 25 secondes, donc ça laisse quand même peut-être des petites choses qu'on va pouvoir découvrir. Donc, voilà. Et Cassian, il ne faut pas oublier effectivement que Celia... a ordonné qu'il doit être tué, effectivement, mais qui mieux que Luthen peut empêcher, enfin un peu contre, de donner un contre-ordre en fait sur son propre, presque propre ordre à lui.
Oui, c'est ça.
Donc, de toute façon, on sait qu'il va pas mourir.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est quand même comment Luthen va s'en sortir. Et Cassian, comment il va s'en sortir, quel allié finalement va être le plus fort. Moi, je pense qu'effectivement, c'est plutôt Cassian qui va aller vers Luthen plutôt que l'inverse. Je me dis que ce qui s'est passé quand même là sur cet épisode, la mort de sa mère, c'est quand même, on sait dans Star Wars que la mort des parents, généralement, ça emmène des choses.
Il faut se souvenir du dernier discours de Marva au moment où Cassian est parti. Donc, la dernière fois qu'elle lui a parlé, les dernières paroles sont celles-ci, donc c'est évidemment ce qui va le propulser à défendre la cause des rebelles.
Ouais, donc on peut imaginer quand même que... Alors, c'est vrai que c'est très beau d'ailleurs la dernière scène de Cassian face à l'océan, là, ça rappelle d'ailleurs, ça rappelle Rogue One, hein, clairement. Il y a un petit écho ici, et c'est très bien joué, hein. il n'est pas effondré, on sent la douleur, mais il se sépare de son copain à ce moment-là, puisque... il souhaite qu'il parle un petit peu de ce qui s'est passé au niveau de la prison, mais je pense que Cassian, lui, il est peut-être déjà lui passé à autre chose, j'ai l'impression.
Clairement.
C'est lui, son pote, lui, il a envie de dire Chris, sous tous les toits, ce qui s'est passé, mais je pense que Cassian, lui, il s'en fout, clairement.
Il s'en fout.
Cassian,
il a compris que c'est pas comme ça, en fait, que ça a changé quelque chose. Et Melchi, il a peut-être encore un peu naïf.
C'est ça. Donc, il faut mieux qu'ils se séparent, hein, finalement, à la fin. Et effectivement, on les retrouvera plus tard, on le sait bien. C'est une très belle scène aussi sur la fin, avec les espèces de cabines téléphoniques sur Nyamos, là. Très sympa. Et on imagine effectivement que la rage envers l'Empire va être énorme. C'est quand même un événement très important dans sa vie. Et ça peut effectivement être le déclic qui va nous emmener sur la deuxième saison.
Je l'espère. Et alors après, la question, c'est quel saut temporel on va effectuer entre la saison 1 et la saison 2, et de quelle manière en fait on va retrouver nos personnages qui auront peut-être bien évolué entre les deux. Enfin, il y a vraiment, il y a tellement d'interrogations, tellement de questions qu'on peut se poser, alors qu'on n'a même pas encore vu la fin de la série, fin de la saison. Donc voilà, moi je suis très très pressé, et je pense que Fred, toi aussi, d'être à la semaine prochaine.
Ouais, bah tout est en place, hein. C'est bien écrit, tout est en place. On va retrouver effectivement sur Férix beaucoup de personnages. Cassian va être entre plein de feux différents. Et ça risque d'être quand même assez explosif. Donc, hâte d'être à la semaine prochaine. Ouais.
Et profitons-en pour conserver tous ces beaux plans magnifiques et cinématographiques qu'on a vus dans l'épisode d'aujourd'hui et dans les autres d'ailleurs. Voilà.
Ouais, avec cool, avec le truc cool d'avoir aussi effectivement le un peu plus d'aliens sur cet épisode, comme je disais au début, a été un peu reproché, et ça c'est quand même, ça fait moi ça m'a fait plaisir effectivement.
Alors vous en avez pas parlé la semaine dernière, mais par contre on a eu pas mal, je trouve qu'on en a eu autant que dans cet épisode là d'aliens la semaine dernière, quand on voit l'espion du le double agent du BSI qui traverse en fait les bas-fonds de Coruscant, et on voit qu'en réalité dès qu'on descend sur Coruscant, on va retrouver beaucoup plus de populations aliens que on ne peut trouver dans les niveaux supérieurs. Donc, c'est vrai que sur ces deux derniers épisodes, on a eu quand même plus d'aliens que dans tout le reste de la série, pratiquement. Donc, c'est quand même pas mal. Fred, je suis vraiment ravi, parce que pour la première fois dans toute l'histoire de Star Wars en direct que j'ai présenté, je peux déverrouiller le succès, faire un épisode de Star Wars en direct de moins d'une heure, et ça, c'est pas rien. Alors voilà, je suis vraiment content, et effectivement, si on avait été 3 ou 4, peut-être qu'on n'aurait pas réussi, donc je suis bien content qu'on ait été que 2 finalement, même si c'est dommage que les filles n'aient pas pu être avec nous. Alors je te propose de mettre donc la note à cet épisode.
Ouais, ça va être assez ça va être assez élevé, hein. Moi je vais mettre un bon 18 sur 20. Voilà,
très bonne note.
Comme ça me laissera l'occasion, j'espère, d'aller au-delà lors du dernier épisode. Mais voilà, globalement un excellent épisode. Et comme je l'ai dit au début, ça se bonifie d'épisode en épisode. Donc clairement, on se demande jusqu'où ça va arrêter. Et hâte d'être à la semaine prochaine pour mettre 20. Je suis très confiant.
J'espère, parce que j'allais dire, en fait, je me tâtais. Alors, moi, je ne serais pas aussi haut pour cet épisode parce que peut-être que je l'ai trouvé moins prenant que toi. Par contre, je lui mettrais un très bon 16 quand même, qui est une note plus qu'acceptable. Et je mettrais un bon 18, par contre, à l'ensemble de la série à date, rendu à l'épisode 11. Je ne peux pas lui mettre 20 parce que peut-être que si elle aurait 20, si elle était encore plus généreuse, ou si je sais pas comment je pourrais lui donner 20. Je trouve que ce serait peut-être un peu surfait, mais en tout cas un bon 18 global me semble très très moins, enfin très 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 très, très correct.
On est très haut quoi qu'il arrive.
Très très haut. Lancelot qui nous dit nos suprêmes princesses nous manquent. Exactement, je suis d'accord. Quel dommage qu'elle n'ait pas été avec nous pour débriefer ce dernier épisode qu'on va pouvoir faire de cette série. On se retrouvera sur Bad Batch. Enfin, ceux qui voudront se retrouver sur Bad Batch pour les débriefs d'épisodes ou d'arc. Enfin, on ne fera pas d'épisode par épisode, mais on fera de l'arc. En attendant, voilà, ce sont les amis québécois qui vont avoir la lourde tâche et l'honneur de conclure par le dernier épisode et puis la vie globale de la série. Parce que si ça se trouve, ça va se planter, dans le dernier épisode, et puis
j'espère pas.
Ça va faire changer tout l'avis de la série en disant c'est dommage d'avoir une super série et puis d'avoir une fin aussi pourrie.
Il y a quelques séries qui nous l'ont fait, ça, hein, par le passé, des séries qui se sont un peu foirées sur le dernier épisode, on en connaît.
Bien sûr.
Mais là, je suis confiant.
Oui, je reste confiant. J'ai pas envie d'y croire, de toute façon. Donc sur ces bonnes notes, sur ces très bonnes notes, on va conclure donc cette édition Star Wars en direct série. Comme d'habitude, hein, vous pouvez venir discuter avec nous, laisser vos avis sur notre Discord, sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous sur YouTube, mais laissez-nous un pouce. Aude a fait un très bon laïus la semaine dernière en vous demandant à vous tous qui nous écoutez de nous laisser un pouce au moment où vous écoutez l'émission, tout simplement, que vous soyez en direct ou pas en direct. Alors laissez-nous des pouces pour nous aider à nous faire connaître et avoir la chance d'avoir plus de personnes qui nous écoutent faire des émissions de moins d'une heure. Et en attendant, évidemment, on est dispo sur tous les autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. Donc voilà. Voilà, on vous laisse en compagnie donc, des amis québécois pour la semaine prochaine, comme vous l'avez compris. Et puis, on vous dit donc à très vite. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.